Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, mais aussi Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, c'est un débat autour d'un sujet d'actualité économique qui conclut notre semaine. Aujourd'hui, c'est l'avenir de notre système de retraite que nous allons interroger. Après une certaine cacophonie au sein du gouvernement, Emmanuel Macron l'a finalement assuré lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Pas question de toucher à l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans. Le projet de réforme qui devrait être présenté cet été prévoit néanmoins d'inciter les salariés à rester le plus longtemps possible en activité. L'objectif, répondre aux vieillissement de la population, tout en maintenant le financement du système de retraite à 14% du PIB. Une réforme qui prévoit notamment de passer à un régime universel par points, censé répondre aux inégalités du système. Alors, le nouveau système des retraites entraînera-t-il une baisse du niveau de vie des retraités, aujourd'hui équivalent à celui des actifs ? Sera-t-il plus ou moins égalitaire ? Et faut-il réintroduire dans le débat la possibilité d'augmenter les cotisations ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Laurie Brébant nous emmène à la découverte de la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith. Et pour débattre de cette réforme des retraites, trois invités autour de la table. Bonjour Laurent Pietraszewski.
Bonjour Tiphaine Orghini.
Vous êtes député La République En Marche de la 11e circonscription du Nord et membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. À vos côtés, Philippe Pillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédéral à Force Ouvrière, chargé du dossier des retraites, FO qui a quitté la concertation le mois dernier. Et enfin, Michaël Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie, co-directeur de l'axe politique socio-fiscale à l'Université de Lille et chercheur associé à Sciences Po. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Face au vieillissement, nous devons rebâtir un système de retraite juste, par points. C'est l'engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. C'est ce à quoi travaille auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Paul Delevoye, depuis le début du quinquennat. Cette refondation profonde, elle sera présentée à l'été. Elle se fera sur plusieurs années. Mais c'est une transformation radicale qui doit remettre de la confiance, de la justice, de l'efficacité dans notre système de retraite.
De la confiance, de la justice et de l'efficacité dans le système de retraite. Voilà donc ce que disait Emmanuel Macron la semaine dernière lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Alors on va faire un premier état des lieux de notre système actuel. Est-ce qu'il est, selon vous, insuffisamment juste et efficace, pour reprendre les mots du chef de l'État, Laurent Pietraszewski ?
Il présente des limites aujourd'hui. Ce système a été pensé après-guerre. Il a été pensé dans un contexte économique, dans un contexte social qui était celui de la reconstruction, qui était celui des carrières longues et ascendantes, assez classiques. On pouvait évoluer dans son entreprise au fil de l'eau et année par année évoluer et gagner sans doute un petit peu plus. Les carrières n'étaient pas heurtées, elles étaient tout simplement relativement linéaires parce que nous étions dans un moment de plein emploi. Donc ce dispositif a eu plein d'avantages, il était tout à fait opportun de le mettre en place après-guerre. On a fait quand même le choix, je le dis aussi après-guerre, de maintenir des spécificités, puisque je rappelle quand même que l'objectif de ceux qui ont créé cette assurance vieillesse était d'avoir déjà à l'époque un système universel et qu'il y a déjà à l'époque, en 1945, dû faire face à un certain nombre de difficultés, de résistances de certains qui ne voulaient pas du système universel.
Philippe Pillet, pour vous aussi, aujourd'hui, il y a une réforme, une nécessité, pardon, de faire une réforme des retraites et pour des questions peut-être de justice notamment.
Alors, sur le problème de la justice avancée par le président de la République dans la réforme à venir, on a une opinion tout à fait différente. Non pas qu'on veuille un système injuste, mais ça fait 26 ans que plusieurs réformes se sont empilées. Ça fait 26 ans. Au bout de 26 ans, les différents régimes dont vient de parler Laurent Pietraszewski à l'instant, les différents régimes convergent. Ils convergent en termes de durée d'activité, donc il faut une carrière complète, c'est-à-dire 42 ans demain. Ils convergent en termes d'âge de départ, donc il y a de moins en moins de différence. Et le moins en moins de différence se constate aussi à travers les études du Conseil d'orientation des retraites, puisque la seule variable, enfin le seul thermomètre qui est important, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre votre dernier salaire et votre première retraite. Ce taux de remplacement, en moyenne, il est entre 73 et 76%, quelle que soit la profession qu'on exerce aujourd'hui.
Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, ce système universel promu par le gouvernement, d'une certaine façon, il existe déjà.
Le système, alors, il n'est pas universel, certes, puisqu'il est encore fléché selon les catégories professionnelles, mais il tend à l'universalité en termes de taux de remplacement. C'est ça l'important.
Alors, Michaël Zemmour, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur ce constat qui est que le système actuel, en l'état, ne peut pas durer?
Alors, le système actuel, c'est quand même une réussite, si on le regarde d'un peu loin, il fait le travail. Au sens où, en France aujourd'hui, quand on cesse de travailler, on peut avoir comme principale source de revenus sa retraite et maintenir grosso modo son niveau de vie. Et ça, c'est une réussite historique, c'est-à-dire que par exemple, le taux de pauvreté des personnes retraitées est plus faible que celui de l'ensemble de la population.
Et ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays de l'OCDE.
Et c'est moins le cas dans la plupart des pays. Souvent, la figure de la pauvreté dans différents pays, c'est les personnes âgées qui sont obligées de cumuler emploi et retraite. En France, la pauvreté concerne davantage les jeunes, les femmes seules avec enfants par exemple. Par contre, il y a quand même des problèmes dans le système actuel. Je citerai en gros trois problèmes. Le premier, c'est que s'il n'y a pas de réforme, les retraites vont baisser, de toute façon. C'est-à-dire que la question du financement des retraites se pose de toute façon. Grosso modo, les réformes passées ont équilibré le système en programmant les retraites à la baisse. Le deuxième problème, ça va concerner notamment l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, il y a des inégalités de salaire femmes-hommes importantes, de l'ordre de 20-27% en moyenne. Elles sont encore plus importantes à la retraite. Et puis, le troisième problème, ça peut être des problèmes notamment d'âge. L'âge légal de la retraite est porté à 62 ans. Et aujourd'hui, vous avez la majorité des personnes qui ne sont plus en emploi au moment où elles prennent leur retraite. Donc, le système est une réussite, mais il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer.
On va voir en détail tous les points que vous avez soulevés, Michaël Zemmour. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que depuis quelques années, la part du PIB consacrée aux retraites s'est stabilisée autour de 14%, alors même que la proportion de plus de 65 ans continue d'augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qui va véritablement en faveur de la nécessité d'une réforme, Laurent Pietraszewski.
Bon, la part du PIB, c'est un élément, un indicateur. Effectivement, il montre que dans notre pays, l'investissement global que fait la société pour les retraités est très significatif. D'ailleurs, il est même très significatif quand on veut prendre globalement l'ensemble des dépenses sociales. Hein, c'est près de 43% de l'ensemble des dépenses sociales. Et dedans, il y a la maladie et tous les autres risques de notre assurance sociale. Donc c'est très significatif. Plus de 300 milliards, 308, 310 milliards sont consacrés aux retraites et 20% à la solidarité. Donc ce sont des sommes qui sont extrêmement importante, qui montre d'ailleurs effectivement que notre système fonctionne aujourd'hui et que Michaël Zemmour dit il a fait le job. Bah, effectivement, on peut dire qu'il a fait le job d'ailleurs en évitant que nous ayons aujourd'hui des problèmes de pauvreté parmi les retraités. Mmh. Mais la difficulté est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont plutôt les jeunes qui sont victimes de cette difficulté.
Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Pillet, avec cette idée qu'il y a une défiance à l'égard du système actuel, justement à cause du manque de lisibilité et de l'existence des régimes spéciaux ?
À chaque fois qu'il y a une réforme qui est programmée, à chaque fois, c'est anxiogène. Les personnes proches de la retraite se disent à quelle sauce je vais être mangé. Les personnes beaucoup plus loin s'en intéressent malheureusement très peu. Globalement, avant 45 ans, je connais pas beaucoup de monde qui s'intéresse à la problématique. C'est un tort, mais la vie est ainsi faite, quoi. Donc, une réforme, quelle qu'elle soit, ça va être anxiogène. Et là, le président de la République, dans sa conférence de presse, en a ajouté encore un peu de crainte, puisque il est programmé une réforme dite systémique, c'est-à-dire un système universel en points. Mais le président de la République, dans sa conférence de presse, a annoncé une autre réforme.
Qui sera mise en place dès 2020.
Il va accélérer la dernière réforme qui est de 2014 sur la durée de cotisation qui sera requise.
Alors justement, pour bien comprendre, il faut passer par un petit peu de pédagogie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement un âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, Michaël Zemmour? Parce que il y a l'âge légal et puis il y a l'âge réel de départ à la retraite qui lui approche en moyenne les 63 ans.
Oui. Alors, l'âge légal de départ à la retraite, c'est, sauf condition particulière, l'âge à partir duquel vous avez le droit d'aller voir votre caisse de retraite et dire « je veux prendre ma retraite, me la faire payer ». Et en fait, il y a deux autres âges. Il y a l'âge effectif moyen, donc quand on regarde les personnes en moyenne à quel âge elles font valoir leurs droits. Et effectivement, aujourd'hui, ça approche 63 ans. Pourquoi ? Souvent, les personnes n'ont pas de carrière complète et donc elles n'ont pas les 42 annuités. Et si elles partaient à 62 ans, elles seraient pénalisées. Et donc elles attendent 63, 64, parfois 67 ans.
Elles seraient pénalisées à cause d'une loi qui a été mise en place en 2015, la loi Touraine, qui prévoit un malus pour les salariés qui partent effectivement à 62 ans.
Alors des malus, ça fait plusieurs décennies qu'il y en a. Ça a été réformé plusieurs fois. Mais à chaque fois, l'idée, c'est que si vous n'avez pas soit l'âge requis, soit une carrière complète, vous allez être pénalisé sur votre retraite. Puis il y a un troisième âge dont il faut parler. C'est l'âge auquel les gens s'arrêtent effectivement de travailler. Et aujourd'hui, en France, à 60 ans, vous avez une personne sur deux qui n'est plus en emploi. C'est-à-dire que beaucoup de gens finissent leur carrière en inactivité, au chômage, en invalidité. Et ça aussi, c'est souvent absent des débats.
Ce que vous voulez dire, c'est que le recul de l'âge légal de départ à la retraite a eu comme conséquence un allongement de la durée de travail, mais aussi plus de chômage et plus d'inactivité, Philippe Piet.
Oui, d'abord ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un âge légal dans un système universel en points, ça n'a aucune signification. Ça, c'est déjà la première des
choses. Pourquoi
cela ? Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle un âge pivot. Le président de la République a évoqué le sujet, alors pas techniquement, heureusement, parce que c'est pas de son niveau. Il est bien au-dessus de ça et c'est légitime. Mais quand le président de la République dit l'équilibre du régime est entre 63 et 64 ans, c'est ce qu'on appelle techniquement l'âge pivot. Mmh. Et il continue en disant on pourra toujours partir à 62 ans, mais avec une décote. Et là, dans les faits, même s'il l'annonce pas, dans les faits, il recule l'âge légal. Mmh. Puisque la décote, c'est-à-dire un abattement. Une décote, c'est un abattement. Si vous partez à 62 ans, au lieu de partir, par exemple, à 63 ou 64, vous aurez X% d'abattement à vie. Mmh.
Donc on ne recule pas l'âge légal de la retraite, mais on pénalise ceux qui partiraient à 62 ans, Laurent Pietraszewski.
Non, la démonstration de mon voisin Philippe Piet est assez, elle est là, incomplète, mais je dis pas qu'il voulait la rendre incomplète parce que, évidemment, le président de la République n'est pas rentré dans les spécificités de à quel moment interviendrait la décote. Philippe Piet vient de poser le postulat qu'elle serait pour la totalité de la durée de perception des retraites. Ça n'a pas été dit lors de l'intervention du président de la République. Donc, bon, je pense qu'il faut d'abord...
C'est l'une des questions. Est-ce qu'elle sera ponctuelle ou est-ce qu'elle sera à vie, en effet?
Laissons les choses se faire. Il y a des concertations qui sont en route et puis nous allons voir derrière ce qu'il y aura. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, nous passons beaucoup de temps, vos questions du début de cet échange étaient d'ailleurs très pertinentes en cela, nous passons beaucoup de temps, et c'est très bien et c'est normal, à nous demander comment peut-être le nouveau système universel plus juste et plus équitable que nous appelons de nos voeux, en tout cas pour ce qui est de ma part avec la majorité présidentielle. Mais il faut quand même revenir sur la réalité de l'inéquité du système actuel. Hein, ça a été dit en partie par Michaël Zemmour, mais on ne s'est pas trop appesanti quand même. La réalité, c'est que le système actuel conduit l'ensemble des salariés à chercher à obtenir le taux plein. D'ailleurs, personne ne vous parle de 62 ans. Quand vous êtes en réunion de famille, tout le monde, lorsqu'il y a un débat sur la retraite, vous dit « mais moi, je sais que j'aurai le taux plein à 65, 66, 67 ». Donc la réalité, il faut rester sur des faits objectifs, pas être que dans la théorie. La réalité, c'est que, et d'ailleurs c'est bien pour cela que l'âge moyen de départ en retraite progresse, parce que les carrières sont de plus en plus heurtées, parce qu'on n'a pas le taux plein à 62 ans, et parce que d'ailleurs, il est, même si on fait un tout petit peu de mathématiques sans être extrêmement calé, on voit bien que si on a fait 5 ans d'études supérieures après le bac, et qu'on rentre dans une vie active à 23 ans, eh bien on se dit, tiens, 23 plus 42, il se trouve qu'on arrive à 65. Et je fais l'hypothèse que dans ce cas-là, c'est une carrière linéaire, en permanence en activité. Donc, il faut aussi poser les choses sereinement là-dessus, en disant, voilà, nous sommes avec un dispositif qui présente des limites. Qui présente des limites parce que il n'est plus adapté à la réalité du parcours professionnel.
Et alors justement, qu'est-ce que la réforme entend changer à cela? On a beaucoup dit que l'idée était d'allonger la durée de cotisation, mais en laissant le libre choix aux salariés. Mais alors, quel est ce libre choix qui sous-entendrait d'avoir finalement une pension moins importante?
Bah, sous-entend pas forcément cela, et je vais simplement moi compléter, puisque j'ai comme vous passé un petit peu de temps à écouter ce qu'a dit le président de la République. Il a explicitement, et il a raison, Philippe Hillet parlait de décote, mais Philippe Hillet a oublié de nous dire que le président de la République avait aussi explicitement parlé d'une période de référence. Donc, il est bien clair que nous a dit le président de la République. Ce que d'ailleurs tout le monde peut voir, c'est que ce que je viens d'expliciter il y a quelques instants, si on rentre de plus en plus tard dans la vie active, qu'on a une espérance de vie de plus en plus longue, tout ça on ne peut que s'en réjouir, nous avons des citoyens de mieux en mieux formés, nous avons des citoyens qui vivent de plus en plus longtemps, ça veut dire que le temps au travail se réduit, c'est-à-dire qu'en fait le schéma est inverse, c'est-à-dire que si nous laissons les choses en l'état, la durée de cotisation de chacun se réduit par rapport à ce qu'elle était pour les autres générations précédentes.
Alors, je voudrais avoir votre avis, Michaël Zemmour, sur ce système de décote et de surcote qui attend en effet, qui demande à être encore un petit peu précisé.
Bah, le principal problème pour moi, l'idée de la décote, c'est la suivante. C'est de dire, on va neutraliser financièrement pour le régime de retraite l'âge auquel vous partez à la retraite. On pense qu'il faudrait que vous partiez à 64 ans, par exemple. Si vous partez 2 ans avant, très bien, mais on vous donnera d'autant moins parce que vous cotiserez moins et parce que vous aurez 2 ans de retraite en moins. Et donc, on va créer une incitation, et cette incitation, c'est la décote. On comprend bien la logique du système. Le problème, c'est qu'une incitation, quand vous n'avez pas le choix, ça devient une pénalisation. Et pour pouvoir choisir son âge de la retraite, il faut à la fois le vouloir, et tout le monde ne le veut pas. Il y a des gens à l'approche de 55 ans, 60 ans, qui aimeraient bien pouvoir s'arrêter, pour des raisons médicales, pour des raisons même de choix de vie. Et surtout, tout le monde ne le peut pas. Aujourd'hui, les employeurs se saisissent des ruptures conventionnelles, par exemple, pour se débarrasser, entre guillemets, des seniors. Ou, si vous cherchez un emploi passé 55 ans, on sait que c'est beaucoup plus difficile, les périodes de chômage s'allongent. Et donc, la question principale de la décote, c'est qu'elle est présentée comme une incitation. Et le risque, c'est qu'elle devienne une pénalisation et que les gens passent un temps important entre l'emploi et la retraite. Et finalement, une retraite amoindrie.
Sachant qu'il y a ce chiffre qui est important, c'est à 60 ans, il y a moins de 50% de la population qui n'est plus en emploi. Philippe Hillet, le risque, c'est que, comme le dit Michaël Zemmour, cette période d'inactivité des personnes qui ont autour de 60 ans s'allonge.
Mais tout à fait. La réforme proposée, elle est bâtie sur un mythe du salarié acteur de sa retraite. Il y en a 1 sur 2 qui est acteur de rien du tout. Il est, Michaël Zemmour en a parlé, il est en invalidité, il est au chômage. Il y a des situations aussi où les personnes sont à l'allocation spécifique de solidarité, c'est-à-dire à peu près 530 euros par mois. Quelle liberté ont ces personnes-là? Ils seront, entre guillemets, obligés de prendre la décote à 62 ans parce que on n'imagine pas qu'ils puissent avoir une retraite de moins de 530. Je voudrais revenir quelques instants sur les problématiques de justice. Le système théoriquement qui devrait se mettre en place est présenté comme juste. Ça fait déjà un moment que je suis les réformes des retraites. J'ai jamais entendu un gouvernement présenter un système nouveau comme injuste. Ça, c'est déjà ça.
Que l'universalité entraîne une plus grande justice.
Le problème des points, c'est le président de la République qui en a parlé. C'est un régime en points. Donc ça va concerner toute la carrière. Il a été fait référence par le président de la République à une durée d'activité. Dans un régime en points, en principe, il n'y a pas de durée d'activité. Donc on met à nouveau un autre frein, plus un âge légal. Ça fait une triple peine, cette affaire-là. Et si vous prenez très rapidement le temps partiel subi, qui est à 80% est féminin, ce temps partiel subi, aujourd'hui, dans le privé, sur une carrière de 42 ans, on prend les 25 meilleures années. Demain, on prendra les 25 meilleures et les 17 que je vais qualifier de pires, et c'est pas la peine de sortir d'une grande école menacée pour savoir que la moyenne fera moins.
Alors on va entendre Laurent Pietraszewski sur cette question, et notamment sur le creusement des inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, ce que Philippe Hillet vient de détailler, c'est le fonctionnement du système actuel. C'est-à-dire que c'est exactement le système actuel. Le système actuel, nous avons, si on prend l'exemple peut-être des mères isolées qui ont des carrières heurtées, eh bien ou qui peut-être se retrouvent seules parce que leur conjoint les a abandonnées à un moment donné, mais se retrouvent à devoir travailler, eh bien elles vont se retrouver face à cette décote, cette impossibilité de faire valoir leur taux plein, C'est exactement le principe de la décote, sauf que c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui existe aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on essaye de reprocher à ce qui pourrait être, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, ce qui pourrait être le système actuel. C'est-à-dire, c'est assez intéressant, sur le fond, au niveau intellectuel. C'est-à-dire que nous avons des levées de boucliers sur ce que pourrait être le futur système, se basant sur les réelles inégalités du système actuel. En réalité, quelqu'un qui a une carrière heurtée, je pense effectivement, par exemple, à toutes ces femmes qui ont dû reprendre des activités, ou même d'ailleurs des temps partiels, et là-dessus, Philippe, il a raison, elles vont être obligées d'aller jusqu'à 67 ans. C'est le système actuel. Et en fait, la difficulté que nous avons, c'est une difficulté de se parler, de se dire les choses. Parce qu'il est plus facile de faire un petit peu d'intellectualisation sur ce que pourrait être demain si on change, plutôt que de dire ce qu'il sera assurément demain si on ne change pas.
Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a en particulier beaucoup de femmes qui partent à 67 ans pour précisément espérer avoir une pension à taux plein.
Effectivement, aujourd'hui, le moyen d'annuler cette décote quand vous n'avez pas une carrière complète, par exemple vous avez cotisé, validé 37 années, c'est d'attendre l'âge de 67 ans, qui est l'âge de départ sans décote. Et là où je voudrais rejoindre Monsieur Pietraszewski, c'est qu'effectivement, il y a une partie du débat qui est mal posée. Tout le débat n'est pas uniquement système actuel, système futur. Il y a une partie du débat qu'on peut placer de manière plus générale, c'est quel niveau de vie on veut pour les retraités et à quel âge on cesse de travailler. Et à mon avis, le problème, c'est que ce débat est esquivé. En posant comme point de départ, on va rester à moyen constant, on programme le fait que les gens aient le choix simplement entre beaucoup moins de retraite ou un peu moins de retraite en partant plus tard. Alors qu'on pourrait avoir un débat plus large, notamment sur le maintien du niveau des pensions.
Alors justement, ce qu'il faut expliquer, c'est que entre 1960 et 2015, la part du PIB consacrée aux pensions a augmenté de 9 points. Elle est passée de 5% à 14%. Il y a cette idée de rester désormais à 14%, mais c'est une idée qui aurait pu être débattue. Pourquoi cette question de l'augmentation des cotisations a-t-elle été écartée d'emblée des débats, Laurent Pietraszewski?
Bon, il faut quand même poser le fait que les cotisations aujourd'hui sociales en matière d'assurance vieillesse représentent 28%. 28% si on additionne employeurs et salariés. 60-40 au niveau de la répartition. Il faut aussi être raisonnable, il faut aussi écouter le besoin qu'ont nos concitoyens d'avoir un net à vivre qui soit cohérent avec leurs besoins immédiat.
Mais elles n'ont pas cessé d'augmenter, tout d'un coup, elles se sont arrêtées brutalement. Est-ce qu'elles ne pourraient pas augmenter moins vite, par exemple?
Écoutez, moi je pense que nous sommes arrivés à un taux de perception en matière de cotisation sociale qui me paraît déjà extrêmement important. Et d'ailleurs, quand on regarde, alors on peut, et on s'en est réjoui tout à l'heure, j'en fais partie, donc il n'y a pas de débat, je crois, entre nous là-dessus, de notre capacité à redistribuer largement. C'est un petit peu une forme de schizophrénie dans notre pays, c'est que nous redistribuons très largement, nous sommes un pays qui fait beaucoup de redistribution, et en même temps, parfois, la perception de nos concitoyens qui pourtant en bénéficient, c'est qu'il n'y en a pas assez, ou en tous les cas, il n'est pas assez fléché vers eux. Parce qu'en fait, la redistribution, c'est parfois celle dont je bénéficie, plutôt que celle qui bénéficie à mon voisin. Bon. Donc en réalité, notre système, c'est en cela qu'il fonctionnait bien, d'ailleurs que nous l'avons dit tout à l'heure. Bon, je crois que 28%, honnêtement, de taux de cotisation est déjà un taux très élevé.
Philippe, sur cette question d'une augmentation.
Sur cette question d'augmentation, je m'appuie encore une fois sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites fait des projections à très long terme, jusque 2070, et il explique qu'avec un scénario économique dégradé, c'est-à-dire avec une croissance encore un peu plus faible que ce qu'on connaît aujourd'hui, il faudrait en 2070 mettre un demi-point supplémentaire de richesse nationale. Donc la vraie question...
Ça, c'est si le système actuel n'était pas réformé.
Voilà. Un système identique, il faudrait mettre un demi-point aux environs de 2070. La vraie question, elle est donc politique. La question, elle est politique, c'est est-ce que la nation, qui est quand même pas dans les plus pauvres du monde, est-ce que la nation qui met 13,8 exactement aujourd'hui de richesse nationale, est-ce qu'elle n'est pas prête à mettre 14,3 points à horizon de 50 ans pour maintenir le niveau des retraites tel qu'il est aujourd'hui?
Pour vous, Michaël Zemmour, c'est en tout cas une question qui devrait être soulevée dans le débat?
Oui, tout à fait, parce que le choix de dire on gèle à 14 points du PIB alors qu'on va avoir 20-25% de retraités en plus dans les années à venir, c'est un choix qui consiste à dire, à partir de maintenant, dès qu'il y a de la croissance, ça va pour les actifs, et les retraités seront plus nombreux à se partager la même chose. Et donc, ça creuse l'écart. On a dit au début que le niveau de vie des retraités était pas très élevé, comparable à celui des actifs. Ça veut dire qu'à l'horizon 2050, d'après les projections du COR, le niveau de vie des retraités serait de l'ordre de 20% en moins. Et donc, il y a deux possibilités dans ce cas-là. Soit on s'apprête à ce que les retraités s'appauvrissent, soit on est en train de dire les retraites publiques, le système obligatoire, c'est juste un système de base et les gens compléteront avec autre chose. Si on veut continuer dans la voie qui a été construite, qui est de dire la ressource principale des retraités, c'est le système de retraite publique, alors il y a une voie moyenne qui est peut-être de toucher à l'âge, mais aussi de continuer à augmenter les cotisations de manière raisonnable. En gros, pour maintenir la parité de niveau de vie, il faudrait augmenter de 0,15 points par an les taux de cotisation. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une croissance de 1,5%, les salaires augmentent de 1,3% et les retraites suivent.
Alors si on reste effectivement à 14% du PIB pour financer le système de retraite et qu'il y a plus de retraités dans les années à venir, mécaniquement, les pensions vont s'amenuiser, Laurent Pietraszewski.
Alors, deux points. Quand même revenir sur cette notion de PIB, pas que ça soit une sorte de totem qui soit brandi. Si on veut se poser par rapport au PIB, il faudra pas oublier qu'il arrive que dans notre économie moderne, il y ait des cycles économiques et des moments de dépression. Voilà. Donc, en général, tous ceux qui vous parlent du PIB ne vous parlent évidemment que quand ça va bien. Et quand ça va pas, ils oublient tout ce qu'ils ont dit précédemment et ils viennent nous disant « Ah oui, alors là, il faudrait revenir en valeur absolue ». Voilà. Donc ça, c'est une approche, qui, si vous voulez, pour moi, assez partielle et économiquement très discutable.
Mais est-ce que voilà. Vous êtes d'accord sur cette question de l'appauvrissement et qu'il va peut-être falloir compenser par des retraites, par capitalisation ?
Non, pas du tout, parce que c'est justement tout l'objectif que nous avons, nous, en proposant ce système par points et en disant clairement les choses. Dire comme, d'ailleurs, Philippe, et puis le dit bien, il l'affirme lui-même, l'âge moyen pour que le système soit en équilibre de retraite, c'est un départ entre 63 et 64 ans. Mais il y a tout à fait des types d'activités où il y aura un âge d'ouverture des droits qui sera sans doute avant 62 ans. D'ailleurs, je pense qu'il le sait, si ça se trouve, mieux que moi, puisqu'il a participé jusqu'à très récemment en concertation avec le haut commissaire. Parce qu'il y a, et ça a été dit tout à l'heure par Michael Zemmour aussi, des métiers avec une forte pénibilité. Donc, le système universel par points, ça n'empêche pas la solidarité, bien au contraire, ça lui donne toute sa place et ça permet aussi des ajustements en fonction du type d'activité. Voilà. Et ce qu'il faut regarder, parce que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, où j'ai l'occasion de retrouver régulièrement Philippe Pillet aussi, a travaillé aussi sur le niveau de vie, si vous voulez, le niveau de vie moyen, parce qu'il faut regarder ça en capacité de pouvoir d'achat. Et évidemment, la capacité de pouvoir d'achat, elle se regarde par rapport au contexte dans lequel on est aujourd'hui. La question, c'est est-ce que les retraités de dans 20 ans auront un pouvoir d'achat qui sera comparable à ceux d'aujourd'hui ? Et c'est cela la question.
On va revenir plus précisément sur le fonctionnement de ce système à points. On en parle dans un instant.
Bien que je ne fasse pas mon âge, mesdames, messieurs, votre attention. Après toute une vie de chômage, j'arrive enfin à la pension. Les cheveux blanchis par l'ouvrage, dopés par mon hypertension. Je vais profiter des voyages et des prix de l'arrière-saison. Après toute une vie de chômage, je vais changer d'allocation. Comme les grands vins, les vrais fromages, plus je vieillis, plus je suis bon. En attendant le grand naufrage, avant mon ultime plongeon, je vais surnager dans le potage avec les mouches et les croutons. Mais voilà que comme un mirage, le jour béni de ma pension recule dans le paysage comme la ligne d'horizon. On me réclame davantage de quotas de cotisation, des annuités d'esclavage en plus pour payer ma pension. Pourtant j'ai fait dès mon jeune âge tous les petits boulots à la con. Je n'ai jamais manqué d'ouvrage, j'ai toujours manqué de pognon. Les camionnettes que l'on décharge, la plonge, les chantiers, les moissons, ça paye le loyer sans les charges, ça ne paye jamais ta pension.
bien que plus âgé que Carthage, et plus ridé qu'Agamemnon. Je reste enchaîné à la tâche sans pouvoir crier Amenon. Quand tient-on de genoux au chômage, expliquez-moi, car je suis con, pourquoi je dois bosser davantage et rester à la maison.
La pension de Claude Semal, dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Notre discussion sur l'avenir des retraites continue en compagnie de Laurent Pietraszewski, Philippe Pillet et Michaël Zemmour. Alors on a parlé du fait que la réforme prévoit de passer à un système universel par points. Est-ce que l'objectif, Laurent Pietraszewski, c'est de répondre à cette formule qu'on a beaucoup entendue, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits quel que soit son parcours professionnel?
Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Et au-delà, c'est on a un système, ce qu'on a évoqué un peu aussi au début, nos 42 régimes. Pourquoi on a 42 régimes? Bah, tout simplement parce que on a eu du mal à les réunir, parce qu'il y a eu des résistances. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure en 1945, puisque ceux qui pensaient à l'époque avoir des régimes relativement favorables n'ont pas voulu être embarqués dans un régime au titre de la solidarité. Ils ont préféré garder le leur. D'ailleurs, souvent, on voit qu'aujourd'hui, 50 ans ou 60 ans après, ils sont en difficulté. Et ils appellent de leur vœu le régime universel. Et c'est un bon exemple, comme quoi il vaut mieux être solidaires ensemble pour réussir ce travail. Et au final, je pense que le dispositif 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit son statut. Et aujourd'hui, on a 42 régimes parce qu'on a beaucoup de régimes qui sont statutaires. Or, cela n'a plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont différents. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant 4 ans.
Voilà. L'idée, c'est de faciliter pour ceux qui passent d'un statut à un autre.
Bien sûr, mais j'ai aussi travaillé dans le privé pendant 25 ans. Puis aujourd'hui, je suis avec le régime de l'Assemblée nationale qui, je le précise, les députés ont décidé d'avoir le même régime que le régime général en matière de retraite. Je le précise parce que j'ai eu beaucoup de questions dans le grand débat sur le sujet.
Pour bien comprendre, Michaël Zemmour, ce système par points mime en quelque sorte un comportement d'épargne?
Oui, c'est ça. Alors, sur ce qu'on sait du système, parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait, ce qu'on sait du système, c'est qu'il y a un changement de logique. La philosophie du système actuel, c'est une philosophie de salaire continué. En fin de carrière, on prend un salaire de référence, les 6 derniers mois dans la fonction publique, les 25 meilleures années dans le privé, et on vous maintient une proportion de votre salaire. Le système à points, c'est plutôt une logique pas d'assurance et de salaire continué, mais plutôt une logique d'épargne. Tout au long de votre carrière, vous cotisez, et chaque euro de cotisation vous amène des points. Et en fin de carrière, votre compte de points est l'empreinte complète de votre carrière et on calcule votre pension en fonction. Mmh. Ça, c'est ce qu'on sait et donc c'est vraiment un changement de philosophie, d'une philosophie plutôt d'assurance et une philosophie plutôt d'épargne. Par contre, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt un économiste malheureux de ce point de vue-là parce que on n'a pas les éléments statistiques, les scénarios, les simulations sur lesquels on pourrait voir. On sait que les pensions vont baisser pour tout le monde. Ça, on sait, sauf si on met davantage de moyens. Par contre, qui va perdre? Plutôt plus, plutôt moins? Quelle va être la situation des femmes? Ça, on n'a pas le matériel.
La question qui se pose notamment, c'est la question pour les fonctionnaires, notamment les professeurs, Philippe Pillet, puisque le système de retraite actuel qui garantit environ 75% de leur dernier salaire fait partie de leur contrat de travail. Donc il y a tout un système à repenser.
L'État employeur, quand il recrute ses salariés, qu'on appelle des fonctionnaires ou des agents, il s'engage, il a un contrat moral avec ses personnels. Et ces personnels, particulièrement les enseignants auxquels vous faites allusion, c'est un corps dans la fonction publique où il y a relativement peu de primes. J'en profite pour dire que c'est pas les 6 derniers mois de salaire au sens où quelqu'un du privé l'entendrait, c'est les 6 derniers mois de salaire indiciaire, c'est-à-dire que les primes ne sont pas soumises à cotisation, pour faire court. Donc, ce qui est important, c'est ce que je disais tout au début, ce qui est important, c'est le taux de remplacement. C'est le rapport entre la dernière paye et la première retraite. Et ça, ce taux de remplacement est grosso modo le même, ça je l'ai déjà dit. Sur le 1 euro cotisé, qui donnera les mêmes droits à tout le monde. On a eu l'occasion, à l'époque où on allait encore à la concertation chez Monsieur Delevoye, on a eu l'occasion d'en débattre. Ce slogan ne tient pas. Ce slogan ne tient pas, c'est le président de la République lui-même qui le dit quand il parle de décote et quand Monsieur Delevoye, le haut-commissaire, parle de ce coefficient majorant. Si vous partez à 62 ans, vous aurez par exemple un point qui vaudra 1 euro. Si vous partez à 64 ans, le point vaudra 1,05 €.
En effet, là, donc, au cœur du débat, c'est comment on détermine la valeur de ce point.
Alors, le vrai sujet, depuis le début, on le demande à Monsieur Delevoye, il ne peut pas nous répondre et la loi, si elle arrive fin de cette année, la loi ne pourra pas répondre non plus. Enfin, je m'abrite derrière un économiste. Comment imaginer une loi fin 19 qui donne une valeur d'achat du point 5 ans après? C'est complètement complètement théorique. Et le grand danger dans cette affaire-là, c'est que le législateur demande un chèque en blanc tout simplement à la population.
Donc ce système par point, le point serait calculé en fonction du nombre de retraités et de l'espérance de vie. C'est cela, Laurent Pietraszewski?
Pas tout à fait, parce qu'il faudrait pas que vous êtes en train de me parler plutôt de la façon dont fonctionnent les comptes notionnels en Suède là. Hein. Donc je pense que on va surtout dire oui, parce que ça fonctionne comme ça sous forme. On va pas rentrer dans le débat technique, parce que là on va se retrouver avec Philippe Pillet au Conseil d'orientation des retraites. Mais justement, le système par points que nous portons et que le haut commissaire co-construit avec les partenaires sociaux, c'est surtout pas un système de compte notionnel où on viendrait calculer la valeur de la retraite sur l'espérance de vie d'une génération. Ça, c'est ce qui se fait en Suède et c'est pas ce que nous posons. Ok, donc il y a des différences qui sont notables. Nous, simplement, ce que nous posons dans le dispositif par points, c'est que les points, les droits à la retraite se constituent. Alors, ils se constituent d'une façon simple, c'est que lorsque je cotise pour 1 euro, j'ai la même valeur de points. Les questions sur quelle sera la valeur de points de service, elles sont légitimes, mais Philippe Pillet, en fait, le sait bien. Les partenaires sociaux ont une très grande expérience de ça. Ils gèrent cela, d'ailleurs avec qualité, disons-le, dans l'Agir Carco. Ils le gèrent depuis plus de 40 ans, donc ils savent très bien comment ça fonctionne.
Les retraites complémentaires.
Voilà, et donc l'Agir Carco, retraite complémentaire pilotée et par les partenaires sociaux.
Ce sont déjà des systèmes par points.
Absolument, où ils appliquent eux-mêmes une décote et une surcote, parce qu'ils ont bien compris, ils appliquent ce qu'on appelle des règles d'or, et ils ont raison.
Ce qui vaut pour la retraite complémentaire vaut pour une généralisation du système?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est très important, puisque si je prends l'Agir Carco, ça paye jusqu'à 60% dans le niveau des retraites d'un cadre, et autour de 40%, Philippe, je dis pas de bêtises, hein, pour un non-cadre. Donc c'est extrêmement significatif. Donc en fait, on ne peut pas simplement se poser et dire ben voilà ce qui fonctionne bien pour les retraites complémentaires. Et il y a plein de bonnes idées là-dedans et nous proposons de les reprendre et de simplement de se dire que c'est une bonne chose.
Il y a quand même une inconnue qui demeure autour du calcul de ce point, de cette valeur du point, Michaël Zemmour.
Comme l'a dit le président de la République, d'ailleurs, c'est un changement complet de logique. On n'est plus dans une logique de maintien de salaire, mais on est dans une logique d'accumulation de points. Et toute la difficulté, c'est quand vous avez un gros changement, vous avez des personnes, peut-être pas un très grand nombre, en fait on n'en sait rien, dont la situation va très fortement changer. On peut penser aux enseignants, on peut penser aux personnes qui ont une carrière heurtée. Notre système actuel, on le connaît bien, on sait comment il réagit. Et moi aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, et en fait personne n'est capable de vous dire, quelle sera la situation dans un système à points généralisé, précisément parce que c'est pas donné au débat. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est l'évolution en termes de niveau en moyenne. Individuellement, qui va perdre plus? Ça, je ne peux pas vous dire, et c'est assez inquiétant.
Ce qu'on sait tout de même, c'est qu'allonger la durée de travail est souvent considérée comme inégalitaire, parce que ce sont souvent les cadres et les plus diplômés qui veulent travailler plus longtemps, Philippe Pillet.
Oui, et puis, on a eu l'occasion de l'évoquer déjà, une durée d'activité dans un régime universel en points, ça ne veut rien dire. Sauf à ajouter une contrainte supplémentaire. Dans un régime en points, il y a un âge, on en a parlé, un âge pivot, que c'est pas moi qui le fixe, c'est le président de la République qui dit, il appelle ça un âge d'équilibre, il a raison, c'est entre 63 et 64 ans, et si je reprends les termes du président de la République, il dit que les régimes sont équilibrés si les départs sont à 63, 64 ans. Je reviens pas sur le départ. C'est un mot qui est tout à fait impropre pour la moitié des personnes, puisqu'ils sont, ils ne sont plus sur le marché du travail, quoi. Donc, mais cette durée qui vient se surajouter. Et je voudrais me permettre une nuance avec Monsieur Pietraszewski sur la co-construction avec le haut commissaire. On ne co-construit rien du tout. Le haut-commissaire nous présente le diagnostic, nous questionne, nous venons avec nos revendications et nos questions, mais nous repartons sans réponse.
Vous parlez d'un échec du dialogue social.
C'est pas un échec, mais c'est une concertation, c'est une conversation, ça n'a rien d'une négociation, et en tous les cas, on est toujours dans le flou. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas la valeur d'achat du point, on ne pourra pas, Michael Zemmour vient de le dire, on ne pourra pas savoir qui perd et qui gagne s'il y a des gagnants.
Et alors Emmanuel Macron veut aussi redéfinir un seuil minimal de pension. Il l'a annoncé au cours de la conférence de presse à l'Élysée. L'objectif annoncé, c'est de compenser les petites retraites inférieures au minimum vieillesse grâce à un minimum contributif de 1000 euros par mois pour une carrière complète. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Michaël Zemmour?
Là aussi, il faudrait le regarder sur pièce parce que il dit exactement dans la même phrase ou à deux phrases d'écart, on va porter l'équivalent d'aujourd'hui ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire ce que vous touchez quand vous avez une carrière complète à 1000 euros. C'est une avancée parce qu'aujourd'hui le minimum contributif est de l'ordre de 650 euros. Mais dans le même temps, il dit une carrière complète va passer très vite à 43 ans. Or aujourd'hui, la plupart des personnes arrivant à l'âge de la retraite n'ont pas de carrière complète. Donc savoir au bilan qui va gagner et qui va y perdre, c'est un peu difficile si on n'a pas les éléments sous les yeux.
Philippe Pillet.
Oui, dans la prolongation de ce qui vient d'être dit, ce minimum, d'abord, il faut penser que le minimum, ça doit être autour de 695, il faut penser à ajouter le morceau de pension complémentaire, notamment ARCO. Donc on est aujourd'hui, la loi Fillon, la loi de 2003, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des décotes et des surcotes. La loi de 2003 indiquait un objectif de 85% du SMIC pour des personnes qui avaient une carrière complète. On est aujourd'hui, comité de suivi des retraites, on est aujourd'hui en moyenne à 83%. Donc on est relativement près. Le sujet que présente le président de la République jeudi dernier dans sa conférence sur ce minimum, c'est un minimum universel, si on comprend bien, puisqu'il se projette dans le système qui veut voir mettre en place. Si on va dans ce système universel avec un minimum contributif universel, le 1 euro cotisé ne tient pas non plus, puisque on le sait déjà, c'est une des rares informations dont on soit à peu près sûr à travers les concertations avec monsieur Delevoye, c'est que des catégories, notamment les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles, qui économiquement ne pourraient pas supporter 28%, et ça tout le monde est d'accord, ils auront le même minimum. C'est-à-dire, si vous imaginez qu'ils cotisent à 14%, à 14% vous avez un minimum de 1000 et à 28% vous avez un minimum de 1000. Le taux de rendement de ceux qui payent 14% est le double, donc un euro cotisé ne donne pas les mêmes droits.
Un euro cotisé ne donnerait pas les mêmes droits dans ce cas précis, dans le cas du minimum contributif qui serait universel, Laurent Pietraszewski.
Oui, Philippe Pillet, je pense, sur le fond, se réjouit de cet écart-là, sur le fond. Parce que qu'est-ce que. On ne peut quand même, dans une société moderne comme la nôtre, on ne peut quand même être enthousiaste à l'idée d'avoir un minimum contributif de 1000 euros assuré pour tous nos concitoyens, quel que soit le niveau de cotisation auquel ils aient, pour lequel ils aient contribué.
Sachant que le minimum vieillesse est à 868 euros.
Voilà, donc on peut quand même pas se satisfaire. Alors j'entends bien la démarche technique de Philippe Pillet sur le sujet, mais oui, écoutez, si il faut dire que pour assurer un minimum contributif décent, de bon niveau, à tous nos concitoyens, il doit y avoir des écarts, notamment pour ceux qui ne peuvent pas encore venir à un taux de cotisation de 28%, parce qu'on ne va pas rajouter 14 points de cotisation sur les indépendants. Bah, écoutez, prenons acte de ce sujet-là, mais on ne peut que s'en réjouir.
Philippe Pillet.
Oui, alors moi je voudrais rectifier. Je ne condamne pas les malheureux qui ne peuvent pas payer 28 points. Simplement, dans un système avec une enveloppe globale, tout deviendra opaque, et au lieu de financer la solidarité qui est due à ces personnes-là par l'impôt, on le financera par la cotisation, et c'est la plus grande masse, c'est-à-dire les salariés du privé, qui cotiseront.
Alors on approche au terme de cette émission, je voudrais faire réagir Michaël Zemmour, vous vouliez réagir aussi peut-être une autre question, c'est est-ce qu'on va assister au développement des retraites par capitalisation qui sont jugées pour le coup très inégalitaires?
Alors, sur le minimum contributif, juste pour qu'on se fasse une représentation, ça va répondre à certaines situations. Les gens qui auront bossé, par exemple, 43 ans, à un salaire extrêmement faible. Ces personnes-là auront le droit à 1000 euros, et c'est une avancée. Ça répond pas à une autre situation, celle, par exemple, des femmes qui auront travaillé 37 ans validés parce que des interruptions de carrière, et qui, elles, continueront à être, pas au minimum contributif, mais au minimum vieillesse. Donc, quand on dit tout le monde, non, c'est pas tout le monde. C'est 1000 euros sous des conditions qui sont de plus en plus dures. Et concernant votre question.
Sur la retraite par capitalisation, est-ce que c'est un développement auquel on va assister?
C'est un petit peu la question. Ce qu'on a constaté en Suède, par exemple, il y a un système à points qui a été mis en place, un petit peu dans la même philosophie, et les personnes qui peuvent, grosso modo les cadres, ont une forte partie de leur retraite qui vient d'un système privé et public par capitalisation. Et donc, une des pistes possibles de la France, si elle suit cette réforme à points, ça serait de considérer son système public comme un filet de sécurité, plus ou moins haut, en disant celles et ceux qui peuvent, complément du privé, et il reste la question de celles et ceux qui ne peuvent pas.
C'est la fin de ce débat. Un grand merci à tous les trois, Laurent Pietraszewski, Philippe Pillet et Michaël Zemmour de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On va continuer bien sûr à suivre le dossier des retraites de près, mais pour l'heure il est temps de retrouver la bibliothèque idéale de l'Écho. Et comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, place à la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith. Bonjour Laurie Préban.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Phare. Alors on le sait, Adam Smith est considéré comme le père de l'économie classique, mais c'est avant tout un philosophe des Lumières, comme en témoigne son premier essai, La théorie des sentiments moraux, donc, qui a été publié en 1759. C'est un Adam Smith philosophe plutôt qu'économiste que l'on a à faire ici.
Oui, effectivement, donc c'est le premier ouvrage publié d'Adam Smith, qui paraît une première fois en 1759 et qui s'appuie sur son cours de philosophie morale donné à l'université de Glasgow. Et alors c'est un ouvrage qu'il considère comme sa plus importante contribution, puisqu'il va le retravailler toute sa vie, durant jusqu'en 1790, soit 14 ans après La richesse des nations. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on connaît mieux La richesse des nations, mais à l'époque, sa contribution majeure, c'est la théorie des sentiments moraux.
Et alors comment la morale se construit-elle chez l'individu selon Smith ?
Alors la théorie des sentiments moraux, effectivement, elle cherche à expliquer la manière dont on juge les autres et la manière dont on se juge soi-même. L'ambition étant d'expliquer comment on parvient à vivre en société, ensemble, en ayant en tête les mêmes normes du bien et du mal. Et cet ouvrage s'appuie donc pour expliquer ça sur deux concepts clés. Le concept de sympathie que Smith reprend à son ami et prédécesseur David Hume pour expliquer la manière dont on juge précisément le comportement des autres. Et à cela, il va ajouter le concept de spectateur impartial pour expliquer la manière dont on se distancie, comment on adopte une attitude réflexive vis-à-vis de nous-mêmes pour juger de nos propres comportements.
Alors pour commencer, en quoi consiste la sympathie dont parle Adam Smith ? En quoi est-ce qu'il enrichit ce concept ?
Alors, il enrichit ce concept parce que la sympathie chez Hume, on a coutume de considérer qu'elle a un caractère plus contagieux, c'est de la contagion émotionnelle. D'accord, vous êtes joyeuse, immédiatement, en vous voyant joyeuse, je suis joyeuse. Alors que Smith ajoute une dimension cognitive au principe de sympathie. Ça va pas être de la contagion émotionnelle. Il va y avoir tout un processus qui va mobiliser l'imagination pour que je m'identifie à vous. Donc je vais me mettre à votre place dans votre situation et imaginer ce que vous ressentez dans votre situation. Bon, c'est plus complexe.
On parle de sympathie, mais on pourrait tout aussi bien parler d'empathie.
Moi, je pense qu'on peut pas réduire le principe de sympathie à de l'empathie aujourd'hui, parce que l'empathie, à la manière dont on la considère aujourd'hui en économie, elle a vraiment qu'une dimension cognitive, alors que la sympathie chez Smith, elle s'appuie sur un processus cognitif qui permet de prendre connaissance des émotions d'autrui, mais elle explique aussi comment ces émotions nous affectent. Donc il y a un caractère émotionnel.
Alors vous l'avez dit, il crée aussi cette figure du spectateur impartial. À quoi correspond cette figure ? C'est peut-être une forme de jugement intériorisé de la société ?
Absolument. C'est grâce à la sympathie que je vais juger des comportements des autres, je vais me mettre à leur place. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont eu telle réaction et je vais essayer de voir si moi-même dans cette situation, j'aurais adopté le même comportement. Et si je n'avais pas adopté le même comportement, eh bien je désapprouve cette réaction. Et à partir de là, je vais construire une norme comme quoi tel comportement génère tel type de désapprobation. Et je vais me fixer comme règle de ne jamais être victime de la même désapprobation. Et c'est comme ça que je vais construire petit à petit mon spectateur impartial, qui va être la norme à partir de laquelle je vais me juger.
Chacun a un spectateur impartial différent, si je puis dire.
Chacun a un spectateur impartial. Je dirais pas qu'il est, enfin, il est évidemment pas exactement le même pour tout le monde, puisque on le construit au gré de nos interactions sociales et on n'a pas tous exactement les mêmes interactions sociales. Mais on tend quand même vers quelque chose de similaire, sinon on ne pourrait pas vivre ensemble.
Et alors, il y a aussi des cas que relève Adam Smith où on ne sollicite pas en soi ce spectateur impartial. Quels sont ces cas, Laurie Brébant ?
Alors, il y a deux situations dans lesquelles on ne parvient pas à faire appel au spectateur impartial pour juger notre comportement et savoir si ce qu'on est en train de faire est bien ou mal. La première situation, c'est la situation dans laquelle on vit soit seul, pas en société, isolé.
Donc les ermites n'ont pas de spectateurs impartiaux.
Pour Smith, les ermites n'auraient pas de spectateurs impartiaux. Et toujours dans le même ordre d'esprit, des personnes qui vivraient avec des gens qui sont extrêmement indulgents avec elles. Donc à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, mais c'est pas de ta faute, c'est pas grave, etc. Dans ce cas-là, on n'a pas affaire à des spectateurs impartiaux, mais à des spectateurs partiaux. Et donc on n'apprend pas à agir de manière morale. On se laisse dépasser par nos passions, parce que ceux avec qui on vit considèrent que ce n'est pas digne de désapprobation. Le deuxième cas de figure, c'est celui du mensonge à soi-même. C'est-à-dire que, quand on vit au jour le jour, on voit très bien, on a une idée de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais quand on va être sous l'emprise d'une passion, on va avoir tendance à se raconter une histoire pour justifier la passion et agir finalement de manière d'une mauvaise manière. Donc, c'est ce que Smith appelle le mensonge à soi-même.
Et alors, ça caractérise, par exemple, les hautes sphères du pouvoir ou les hautes sphères de l'argent, où on est entouré de gens complaisants, c'est ce que dit Adam Smith ?
Oui, c'est exactement ça, ouais, effectivement.
Et alors, quels enseignements est-ce que Adam Smith retire de la comparaison qu'il va établir entre la pauvreté et la richesse et entre ce qu'il appelle d'un côté la condition la plus humble et de l'autre la condition la plus exaltée ?
Alors, ce qui est intéressant dans la théorie des sentiments moraux, c'est que Smith considère que le riche n'est pas plus heureux que le pauvre, même si on peut en avoir l'impression, c'est une vue de l'esprit. Quand on est riche, on n'est pas plus heureux que le pauvre, et ça, c'est lié précisément à l'influence du spectateur impartial. Smith considère, ça peut paraître très curieux, que y a un état ordinaire de bonheur commun au genre humain, qu'il y a très peu de gens qui n'ont pas cet état ordinaire de bonheur, parce que ils se confrontent tous au spectateur impartial et que d'après le spectateur impartial, on peut être également heureux dans n'importe quelle situation. Donc là, il y a une influence un peu du stoïcisme dans la vision de Smith concernant le bonheur.
Et la richesse ne change rien à cela.
Alors, d'après le spectateur impartial, c'est frivole que de considérer que la richesse est source de bonheur. Le bonheur s'appuie sur la vertu, pas sur la richesse. Même si on peut en être très heureux temporairement, on va finir par se confronter à nos semblables, grâce auxquels on construit le spectateur impartial, et réaliser que pour eux, la richesse ne fait pas le bonheur. Enfin, on connaît tous ce proverbe, c'est un proverbe populaire, que la richesse ne fait pas le bonheur.
Et peut-être que pour expliquer cela, Adam Smith passe par une distinction entre plaisir et bonheur.
Pour Smith, le bonheur est fait de plaisir. Mais ce plaisir n'est accessible que si on est tranquille. Voilà. Donc il y a deux ingrédients au bonheur, nous dit-il, la tranquillité et le plaisir. La tranquillité, c'est ce qui va permettre d'avoir plus ou moins de plaisir à notre disposition. Et la tranquillité, on l'a quand on est vertueux. Donc, plus on est vertueux, plus on a de sources de plaisir qui sont accessibles.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas théorique ? Est-ce que dans la réalité, on ne constate pas que le bonheur est plus important quand le revenu est aussi plus important ?
Justement, en économie, on a tendance à parler d'un résultat plutôt récent au regard de l'existence de la discipline. Le paradoxe d'Easterling, qui montre que certes, dans un pays à court terme, les riches sont plus heureux que les pauvres, mais dans le temps, on ne constate pas de relation entre richesse, entre le PIB par tête et le bonheur moyen déclaré. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterling.
Et c'est quelque chose qu'il a démontré de manière empirique en 1974, c'est ça ?
Exactement.
Richard Easterling travaille sur les liens entre bien-être et PIB par habitant. Est-ce que ce qu'il démontre finalement, c'est que davantage d'argent rend plus heureux, mais jusqu'à un certain seuil ? Et alors, est-ce qu'il définit ce fameux seuil ?
Alors, effectivement, il y a un seuil à partir duquel les besoins, les besoins de base sont satisfait, à partir duquel la richesse ne contribue plus au bonheur. Alors évidemment, tout ça, ce sont des enquêtes qui ont été aussi discutées. Donc c'est pas un résultat sur lequel tout le monde est d'accord, mais C'est un résultat connu des économistes.
En quoi la théorie des sentiments moraux permet-elle, selon vous, à Laurie Brébant, de mieux comprendre la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui est, vous l'avez dit, l'ouvrage le plus célèbre d'Adam Smith?
Souvent, on évoque le lien entre la théorie des sentiments moraux et la richesse des nations pour montrer qu'il y a une compatibilité entre les deux, parce que pendant longtemps, on a cru que les deux ouvrages étaient incompatibles, avec un principe de sympathie qui ne serait pas cohérent avec la vision égoïste qui serait présente dans la richesse des nations.
C'est le fait de promouvoir à la fois l'enrichissement dans la richesse des nations et le fait de dire qu'effectivement, richesse et bonheur ne sont pas vraiment compatibles dans la théorie des sentiments moraux.
Ça, c'est un deuxième point. En fait, le premier, pendant longtemps, on a opposé les deux ouvrages en disant que Smith proposait une vision altruiste dans la théorie des sentiments moraux, alors qu'il proposait une vision égoïste dans la richesse des nations. On a résolu cette incohérence grâce à des recherches qui ont eu lieu dans les années 70. On a retrouvé des notes de cours d'étudiants de Smith qui ont permis de résoudre ce paradoxe.
Et on l'a résolu comment, en quelques mots?
Ben, on a montré, tout simplement, on a compris que la sympathie, c'était pas de l'altruisme, d'accord? Ce qui la rend compatible avec la défense de l'intérêt personnel comme moteur des actions. Même si pour Smith, l'intérêt personnel, ce n'est qu'un motif de l'action, il y en a plein d'autres. L'être humain n'est pas mu que par son intérêt personnel. Et on a aussi montré que Smith, dans La richesse des nations, ne parle pas d'égoïsme, mais bien d'intérêt personnel. Donc voilà, ça a rendu compatible les deux ouvrages. Mais il y a un autre problème. Voilà, il y a un autre problème qui est apparu, c'est qu'effectivement, dans la théorie des sentiments moraux, Smith nous dit, finalement, la richesse ne contribue pas au bonheur. Donc ça a donné lieu à un nouvel Adam Smith problème qu'il faut résoudre. Comment Smith peut-il promouvoir la richesse des nations tout en considérant que la richesse ne fait pas le bonheur?
Et pour vous, il y a une incompatibilité fondamentale ici?
Alors, il y a quelque chose qui pose question, oui. Mais je pense qu'on peut résoudre ce problème en considérant que dans la théorie des sentiments moraux, Smith parle à un moment donné. Décrit la société de son temps, tandis que dans La richesse des nations, il cherche à promouvoir un autre système avec des institutions plus égalitaires. Et ce que j'ai cherché à montrer dans mes travaux, c'est que finalement, si on considère que la richesse ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'il y a des inégalités qui conduisent les pauvres à admirer les riches, et les riches à y perdre quelque chose aussi, puisque certes ils sont admirés, mais ils ne disposent plus d'une liberté personnelle. Quand vous êtes riche et célèbre, vous êtes admiré de tous, regardé en permanence, et vous n'avez plus de vie privée. Et ça, Smith dit que c'est dommageable. Donc si on parvenait à promouvoir une société plus égalitaire, finalement, ce problème sera amené à disparaître. Et peut-être, c'est une piste, c'est pas, voilà, peut-être qu'on pourrait considérer que la richesse, dans ce cas-là, fait le bonheur.
Donc si tout le monde s'enrichit, ou du moins a la possibilité de s'enrichir, richesse et liberté personnelle deviennent compatibles.
Exactement.
Merci beaucoup, Laurie Brébant, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je précise pour les auditeurs que la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith a été rééditée aux éditions Payot et Rivage. Un grand merci.
I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way.
Your own sweet way, des Nothing Hillbillies. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée aux enjeux de la concurrence. L'économie en concurrence, on en parle de 14h à 15h toute la semaine prochaine sur France Culture. D'ici là, comme toujours, vous pouvez réécouter l'intégralité de nos programmes à vie sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can
can lead a horse to water. You can't make him drink. You'll go your own sweet way.